On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Marc Sémo, collaborateur du magazine Challenge et du journal Le Monde. Bonjour Marc.
Bonjour.
Et Bruno Daroux, chroniqueur international à France 24. Bonjour Bruno.
Bonjour Raphaël.
Au sommaire, lundi noir en bourse, des baisses de 4 à 10% sur les principaux indices entre l'Europe et l'Asie. Nouvelle menace de Donald Trump contre la Chine qui pourrait subir plus de 100% de surtaxe au final. La Commission européenne, elle dévoile sa riposte, 25% de tarifs supplémentaires sur les biens américains à compter du 16 mai prochain. Emmanuel Macron est aux côtés du président égyptien Al-Sissi et du roi Abdallah II de Jordanie. Sommet à Troyes au Caire. Le président français, tout comme ses deux homologues, indique rejeter tout déplacement de population à Gaza. Et dans un même élan, il exclut aussi tout rôle futur pour le Hamas dans la gouvernance, future gouvernance de l'enclave palestinienne. C'est tout de suite, on va plus loin. C'est la panique sur les marchés. On ignore si le relèvement brutal et massif des tarifs douaniers américains aura un quelconque effet bénéfique à long terme sur l'économie des États-Unis, car après tout, c'est là quand même le seul but recherché. Hein. Ce qui est sûr, en tout cas, Donald Trump aura déclenché un krach boursier planétaire. Pour quel résultat ? Voyez les images commentées par Alexandre Guin pour France 2.
À l'ouverture ce matin, l'inquiétude se lit sur les visages à Francfort. La bourse Davis, moins 10%. Et à Paris aussi, moins 6%. En Asie, les marchés ont vu rouge toute la journée. Scène de panique en Corée du Sud. Ces passants à Tokyo marquent le pas devant la chute des indices. À Shanghai et Hong Kong, forte baisse aussi après la riposte chinoise aux droits de douane ce week-end. Les secousses d'un lundi noir, avec des actionnaires qui vendent en masse. Ce gestionnaire d'actifs financiers à Paris scrute avec attention les cours, minute par minute.
Ça montre bien une grande fébrilité des investisseurs qui n'ont pas aujourd'hui la réponse à ces droits de douane. Ils ne savent pas à quel niveau ils vont être fixés et quel impact ça pourra avoir et sur la croissance économique et sur l'inflation partout dans le monde.
Acte 1 de la guerre commerciale lancée par Donald Trump qui ne semble pas prêt d'infléchir sa politique. Hier à bord d'Air Force One, le président assume les conséquences des droits de douane.
Je ne veux pas que les choses se dégradent, mais parfois vous devez prendre des médicaments pour corriger quelque chose. Nous avons été si maltraités par d'autres pays, parce que nous avons eu des dirigeants stupides qui ont permis que cela se produise.
À ce stade, selon la Maison-Blanche, une cinquantaine de pays ont pris contact pour négocier. À partir de mercredi, le plan de Donald Trump entrera dans une nouvelle phase. Plusieurs dizaines de pays se verront appliquer des droits de douane supplémentaires, dont les États membres de l'Union européenne. Alors est-il encore possible d'éviter un krach boursier cette semaine ? Aucune certitude pour le moment. Les experts sont partagés.
Pour l'heure, en tout cas, les principaux indices ont tous perdu en trois séances plus ou moins un dixième de leur valeur et effacé tous les gains depuis novembre à l'élection du candidat républicain, censé porter un grand vent de baisse d'impôts et de libéralisation, du moins le croyait-il. Qu'à cela ne tienne, Donald Trump, lui, n'entend pas changer de politique. Il l'a tweeté avant le nouveau plongeon à l'ouverture de Wall Street, interpellant les investisseurs en ces termes. « Ne soyez pas faibles, ne soyez pas stupides, soyez forts, courageux et patients, et la grandeur sera au rendez-vous. » Marc Sémon, on assiste à une rupture entre Trump et les milieux d'affaires qui l'ont pour partie quand même porté au pouvoir.
C'est peut-être prématuré pour le dire, mais c'est probable. Disons, le bloc trumpien qui a gagné l'élection... C'était trois composantes. C'était une composante populiste forte, une composante aussi évangéliste, d'une droite chrétienne, en grande partie évangéliste, mais aussi catholique, dont J.D. Vance comme catholique est révélateur, et puis la high-tech et la Silicon Valley. Et c'est évident que là, il y a un écartèlement. Et il suffit d'entendre Elon Musk, on a beaucoup vu depuis le début, s'afficher avec Donald Trump, qui dit l'idéal, ça serait de faire une grande union douanière de l'Europe et des États-Unis. Donc on est aux antipodes de ce qui est en train de se passer. Eux, leur objectif, c'est d'obtenir une dérégulation totale au niveau de la high-tech, au niveau de l'Europe. L'Europe est leur ennemi parce qu'elle veut fixer un certain nombre de normes et de garde-fous, notamment l'intelligence artificielle. Donc on est dans un grand écart, mais on retrouve là cette une espèce de conviction qu'a Trump depuis le début. C'est un vrai choix idéologique. Trump, étrangement d'ailleurs, colle à ce président qui était en grande partie oublié, William McKinley, qui avait été à la fois le début d'un néo-impérialisme américain avec la guerre contre l'Espagne, Guam, où ils ont récupéré Guam, Hawaï, les Philippines, Cuba, etc. Et un protectionniste XXL, on l'appelait le Napoléon du protectionnisme. Mais lui, juste avant d'être assassiné d'ailleurs, il disait « ça a été une erreur ». Donc on comprend même pas pourquoi ça avait été un échec total. Trump déteste les losers. Or, McKinley, dans l'imaginaire américain, dans la mémoire américaine, c'est le loser total. Hein, son successeur, Theodore Roosevelt, est celui qui a tiré les bénéfices.
Auprès des républicains.
Voilà. Donc, on ne comprend pas cette espèce d'acharnement de Trump, cette espèce de fixation, mais c'est une fixation très, je terminerai là-dessus, très ancienne qu'il a. Dans des interviews dans les années 80, quand il était encore seulement un homme d'affaires, déjà, il martelait cette idée des tarifs.
Ça veut dire, Bruno, qu'il ne fléchira pas, quel que soit l'avis de son entourage. Il est imperméable aux pressions.
Bah, d'abord, son entourage, il n'est pas effectivement aussi monochrome qu'on le dit. Effectivement, Elon Musk, c'est une déclaration un peu étonnante. Après, ses conseillers économiques, notamment Peter Navarro, eux sont sur cette ligne des droits de douane qui doivent permettre, il faut quand même rappeler l'objectif, en tout cas affiché par Donald Trump, c'est forcer, inciter, on ne sait pas comment dire, en fait, les entreprises étrangères à se délocaliser, en quelque sorte, à venir aux États-Unis pour produire ce qu'ils font sur place et ainsi échapper aux droits de douane. Bon, on va voir si ça marche. Pour le moment, ça n'a pas l'air très suivi d'effet. Ça vient d'être annoncé. Mais oui, moi, je suis d'accord avec Marc. En fait, c'est une obsession qu'il a depuis 40 ans sur les droits de douane. C'est presque idéologique. Il pense véritablement que tout le monde va s'aligner comme ça, et il pense véritablement, parce qu'il l'a redit là, on l'a vu là, à bord de l'avion Air Force One, il pense véritablement que les États-Unis se sont fait avoir depuis des années et qu'il faut rétablir cet équilibre. Alors que quand on regarde dans les faits, alors avec certains pays c'est vrai, avec d'autres comme, par exemple comme l'Union Européenne, hein, si on ajoute les biens et les services, en fait, le différentiel, il est assez faible. 50 milliards, ça peut paraître beaucoup, mais dans l'ensemble des échanges, c'est assez peu. Alors, est-ce que il ne va pas lâcher prise? On n'en sait rien encore, puisque on pense aussi, enfin, certains économistes pensent que, comme souvent la méthode Trump, il veut d'abord frapper très fort et puis ensuite négocier pour obtenir quand même quelque chose qui soit profitable aux États-Unis, qui soit quand même dommageable à ses partenaires alliés ou ennemis d'ailleurs, mais qui du coup, au bout du compte, se disent « Ah ben finalement, on a échappé au pire. »
C'est par comme exemple ça qu'il avait obtenu la renégociation de l'ALENA dans le
premier
mandat.
Oui, bien sûr. Oui. Et par exemple, au sein de l'Union européenne, il y en a certains qui disent « Bon, ben finalement, si on s'en tire, passez-moi l'expression, avec les 10% de base, finalement, ce sera bien. » Mais sauf que 10%, ce sera 4 fois plus que ce qui existe aujourd'hui, en fait. Donc mais, ça, c'est la méthode Trump, un peu.
Oui, mais c'est possible de le digérer. Et donc, fait, le rêve de la plupart des affaires, c'est d'arriver 10% en Europe, 20% ou plus pour la Chine, qui n'importe
comment est considérée. Donc les États-Unis ressortiraient gagnants de ce bras de fer, au final.
Oui et non, parce que tout le monde, à la fin, il trouverait plus ou moins son intérêt. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'une des conséquences de ce qu'il est en train de faire, ça marque la fin d'une certaine mondialisation, et ça marque surtout le début d'une, enfin l'accentuation encore d'une régionalisation de la mondialisation, qui à certains égards, si on n'est pas parti dans les taux déments qu'a lancé Trump, est quelque chose qui a aussi des avantages. Les démocrates, avec à l'époque de Biden, d'une façon beaucoup plus modérée, étaient en train quand même d'essayer de faire ça, de relocaliser les entreprises. En termes de lutte contre le réchauffement climatique, le fait qu'un t-shirt n'arrive pas de Chine, mais ait été fabriqué, par exemple, en Roumanie pour être vendu à Paris, c'est le coefficient de CO2 est plutôt meilleur.
Oui. En termes économiques, on parle d'un pays qui a 4% de chômage, c'est totalement procyclique, en fait. Il n'y a pas besoin de faire une relance.
Il
n'y
a pas besoin de faire
une relocalisation. Voilà.
Mais on est dans quelque chose, effectivement, qui va changer la donne, qui est encore très difficile à évaluer. C'est pour ça qu'il y a aussi cette panique permanente, cette panique énorme des milieux financiers. Mais avec le terminal du statut, un immense espoir. Il a suffi qu'il y ait la fake news de dire que tout était repoussé de 90 jours pour que, brusquement, la bourse se remette au vert. C'est ce qui est complètement
dément. Ça montre le caractère artificiel.
Je veux ramener aussi, non, parce que vous disiez à l'instant, on ne voit pas très bien pourquoi, parce que l'économie l'économie, les fondamentaux.
Oui, mais ça part d'un postulat, voilà, d'un constat sur l'économie qui semble quand même erroné.
Oui, mais il y avait quand même l'histoire, il y a l'histoire du montant de la dette américaine. Oui. Il veut comme ça récupérer des centaines de milliards de dollars pour essayer de déponger
la dette extérieure.
La dette extérieure.
Et puis la délocalisation des usines.
Après, effectivement, on assiste très certainement à la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue. Depuis la Seconde Guerre mondiale et surtout depuis la chute de l'Union soviétique.
Version MC, quoi.
Voilà. Avec, en fait, on avait une superpuissance qui était là et qui était aussi un gage de stabilité pour, d'un point de vue économique, d'abord, monétaire, politique aussi, avec des alliances, etc. Chacun savait qu'on pouvait compter sur cette superpuissance qui sont les États-Unis. Et c'est ça aussi qui est un peu paradoxal, parce que, en fait, Donald Trump, d'un côté, il dit « Make America great again », c'est-à-dire donc lui rendre sa grandeur, et en même temps, ce faisant, c'est comme s'il disait « Bah, maintenant, en gros, ce qui nous intéresse, c'est soit des accords bilatéraux, soit dans notre espace régional, voilà, faire du commerce avec les Mexicains, les Canadiens, etc. Mais on ne veut plus assumer ce rôle
d'arme du monde.
De superpuissance. Et c'est ça, d'ailleurs, qui crée aussi beaucoup de panique, par exemple. Hein, y a un exemple, alors, symbolique, mais l'Allemagne a décidé aujourd'hui d'aller récupérer aux États-Unis, alors ces tonnes d'or, j'ai plus le montant exact en tête, je crois que ça représentait un tiers de ces réserves d'or,
d'or physique,
depuis l'époque de la guerre froide, stockées aux États-Unis parce que c'était l'endroit sûr où le mettre. Donc il y a aussi de la rupture psychologique et politique, ce n'est plus une puissance fiable, ce n'est plus la superpuissance.
C'est plus un tiers de confiance.
Voilà. Voilà. Et en plus, les États-Unis, en faisant ça, quelque part, c'est une forme d'isolement et même de suicide. Ce qu'il faut voir,
c'est que disait Bruno, ils sont en train de démotiser en fait leur capacité, leur rôle des talons.
Parce que bon, les États-Unis, c'est 13% des importations mondiales, ce qui est finalement assez peu. Il y a 87% qui peuvent faire sans. Et d'une certaine façon, en faisant ce qu'il fait, Trump, il réouvre un immense espoir à la Chine, un immense espace à la Chine, qui s'oppose en garant, justement, du multilatéralisme, des lois du commerce, de l'ouverture, de la mondialisation heureuse, etc., qui prend la pose comme ça, et surtout à l'Europe. Parce qu'en réalité, c'est une opportunité extraordinaire pour l'Europe. Ce qu'il faut voir, c'est que les États-Unis, c'est 25% du PIB mondial, mais l'Europe, toute confondue, c'est 22%. C'est quand même une puissance réelle. Bien sûr. Donc là, l'Europe a une possibilité de rattraper les trains qu'elle a ratés jusqu'ici.
Et pour ce qui pourrait aussi accélérer le déclin, enfin, quelque part des États-Unis, c'est que ça va sans doute contraindre, ça commence déjà à être évoqué, à de nouvelles alliances commerciales. Hein, on parle déjà d'un renforcement du CETA entre l'Europe et le Canada, le Mercosur, l'Inde. Ça se ferait au détriment
des États-Unis. Sans les États-Unis, la Chine qui dit en fait, directement avec le Japon et la Corée du Sud.
Voilà. Donc en fait, il prend un risque aussi assez incroyable, quoi.
Alors l'Union européenne, elle a annoncé, elle va augmenter donc de 25% ses droits de douane à compter du 16 mai. Le ministre français du commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, va même jusqu'à menacer Washington d'une riposte européenne qui pourrait, selon lui, se montrer extrêmement agressive. Écoutez-le.
Je pense qu'il nous faut n'exclure aucune option sur les biens, sur les services, quelle que soit la façon de l'aborder, et ouvrir la boîte à outils européenne qui est très complète et qui peut être extrêmement agressive également en retour. Je pense évidemment à l'instrument anti-coercition.
Bon, Marc, c'est moi. Est-ce que c'est de l'esbrouf ou est-ce que réellement l'Europe est prête à la confrontation avec les États-Unis? Est-ce qu'on a les moyens?
Alors, c'est difficile à dire. Bon, d'abord, quand même, il y a un atout. C'est que le commerce, c'est une compétence commune. Et en plus, à la majorité qualifiée. Donc, il y a tous les éléments, donc un veto...
On l'a d'ailleurs subi pour le Mercosur.
Voilà.
Nous, Français, étions contre.
Absolument. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, les éléments y sont. Ensuite, c'est une question de volonté politique. Alors, Ursula von der Leyen a l'air quand même, malgré tout, finalement assez déterminée. Le fait que l'Allemagne soit elle-même très déterminée, ça joue aussi. Donc, on a les moyens de faire un certain nombre de choses. Mais toute la question...
Tu as sacrifié l'automobile allemande ?
C'est l'idée d'un rapport de force. Mais le problème des Européens... C'est que taxer les biens américains importés en Union européenne, ça n'a pas grand sens et il n'y a pas grand chose. D'ailleurs, là-dessus, les Européens ont un énorme excédent.
Sauf le numérique.
Voilà. Ouais. En revanche, il y a la question des services. Ouais. Sauf que si on décide de taxer les services...
Sont ça les mesures extrêmement agressives auxquelles fait allusion Saint-Martin, on imagine.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Oui, c'est-à-dire,
ils sont en quasi-monopole.
Ils ont un quasi-monopole. Donc qu'est-ce qu'on fait?
La Chine a montré qu'on pouvait brider les GAFA.
Oui, absolument.
Sur son territoire. Bruno.
Oui, mais la Chine, elle a son propre système. Oui,
voilà. Nous, on est loin.
Voilà, on en est très loin.
C'est l'occasion servie. Mais bon.
Non, en fait, l'Union européenne, ils sont en train de préparer une réponse à la fois ferme, mais aussi ils essayent d'être intelligents, agiles, etc. Donc, effectivement, ils brandissent la menace sur les services. Ils taxent un peu ce qui doit être taxé. Mais je crois d'ailleurs que ce qui va entrer en vigueur le 16 mai, ça concerne l'augmentation sur l'acier et l'aluminium, hein, qui était déjà, en fait,
déjà. Bah, l'Europe fourbit ses armes pour la suite.
Voilà. Et Ursula von der Leyen a dit, ben. Oui, mais pourquoi pas finalement discuter de droits à zéro concernant les biens industriels, justement, entre l'Europe et les États-Unis. C'est-à-dire, en fait, les Européens se disent, de toute façon, Trump, il aime toujours négocier. Donc si sur une partie de ces produits-là, on lui propose une zone de libre-échange, alors c'est un peu dans la même veine que ce que dit Elon Musk.
Musk,
c'est plus vaste et ça concerne. Évidemment, au premier chef, les services. Enfin, il y a aussi Tesla, évidemment. Mais voilà, l'Europe essaye d'adopter une réponse à la fois diverse et se dit, effectivement, on ne peut pas simplement faire de la contre-attaque sur les droits de douane, parce qu'au bout d'un moment, là, ça va vraiment entraîner un risque d'inflation, de récession et toutes les conséquences qui s'en suivent.
Ça va nous pousser, nous, Français aussi, peut-être à revoir notre méfiance intuitive vis-à-vis des accords de libre-échange dans lesquels l'Europe nous entraîne, si tant est que cela demain peut nous permettre de nous sauver d'une certaine manière d'une dépendance aux États-Unis entre autres. Vous évoquiez le Mercosur, vous évoquiez le CETA. Les Français sont extrêmement réticents, ils n'en veulent pas. Est-ce que demain on peut consentir effectivement cette délégation de fait d'ailleurs aujourd'hui
à la Commission? Il serait temps qu'on comprenne qu'il y a cette réalité du monde et qu'il est
extrêmement. Les agriculteurs français n'en veulent pas, par exemple.
Et que c'est le moment de se trouver de nouveaux amis. Oui. Et les nouveaux amis, ben on les trouve au Canada, on les trouve en Australie, on les trouve dans les pays asiatiques, en Amérique du Sud.
Mais comment faire accepter par nos filières les plus exposées? Ça veut dire qu'il va falloir faire de la câlinothérapie derrière, des subventions?
Ça veut dire, là aussi, bienvenue dans le monde réel, de voir ce qu'on avait refusé de voir pour le Mercosur, etc.
Après, oui, on dit qu'on change d'époque, mondialisation, c'est sans doute vrai, mais il faut quand même rappeler que ça va quand même être très compliqué, que ça peut avoir des tas d'effets pervers, parce que aujourd'hui un même bien, par exemple, peut être produit, raffiné, machin, dans 7 ou 8 pays.
Une voiture fait 20 fois le trajet de la frontière Canada-Mexique.
Voilà. Donc ça devient très compliqué avec les droits de douane, puisqu'à chaque fois, un composant qui passe telle frontière, boum, tant de pourcents de droits de douane, ensuite il va à l'Union Européenne, boum, avant de repartir aux États-Unis. Vous voyez, donc ça risque potentiellement d'avoir des effets désastreux pour certains secteurs.
Ouais.
Ils sont hyper mondialisés.
Et pour le consommateur, au final.
Pour le consommateur.
Sur un tout autre dossier à présent, le Proche-Orient, Donald Trump, qui voudrait bien voir les Palestiniens de la bande de Gaza trouver asile chez les voisins arabes de la région, en Égypte et en Jordanie. Non, lui a répondu Emmanuel Macron, aux côtés du président égyptien Al-Sissi et du roi Abdallah II de Jordanie, à l'occasion d'un sommet à Troyes, ce lundi au Caire. Le président français, tout comme ses deux homologues, indique rejeter tout déplacement de population à Gaza et, dans un même élan, à exclure aussi tout rôle futur pour le Hamas dans la gouvernance de l'enclave palestinienne. Les images commentées par Florent Rodeau.
Emmanuel Macron reçu en grande pompe par le maréchal Al-Sissi. Au Caire, le président français est venu s'opposer au déplacement forcé des 2,5 millions de Palestiniens de Gaza. Avec son homologue égyptien, il est sur la même ligne. Le plan de la Ligue arabe pour Gaza est le bon, pas celui de Donald Trump.
Nous nous opposons fermement au déplacement de population et à toute annexion de Gaza comme de la Cisjordanie. Il s'agirait d'une violation du droit international, d'une menace grave pour la sécurité de toute la région, y compris celle d'Israël.
Emmanuel Macron estime aussi que le Hamas ne peut plus avoir de rôle dans la gouvernance du territoire de Gaza. Les autres priorités ont-elles été définies par le président égyptien ?
Nous avons mis l'accent sur la nécessité de retourner à un cessez-le-feu immédiat, de permettre l'entrée de l'aide humanitaire de façon urgente et de libérer les otages.
Rejoint ensuite par le roi Abdallah de Jordanie pour des discussions à Troyes, les deux dirigeants se rendront ensemble mardi non loin de la frontière de Gaza, où l'aide humanitaire est bloquée depuis la reprise des combats dans l'enclave palestinienne.
Voilà, et l'Élysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron avait organisé un appel à Donald Trump alors qu'il se trouvait donc aux côtés d'Abdel Fattah Sissi et d'Abdallah II de Jordanie. Bruno, la France veut peser sur le sort de Gaza comme elle tente de peser auprès de Washington en soutien de l'Ukraine ?
Oui, la France. Alors oui, la France cherche à jouer un rôle. Toute la question, c'est est-ce que la France joue un rôle effectif et efficace. Le déplacement aujourd'hui et demain d'Emmanuel Macron au Caire s'inscrit dans cette volonté. Bon, il y a un aspect bilatéral. Ça fait longtemps qu'on fait des parfois bonnes affaires avec l'Égypte, notamment dans le domaine militaire. Mais il y a la volonté de la France et de l'Égypte aussi, d'ailleurs, de profiter de cette visite pour chacun se rehausser un peu. Bon, Emmanuel Macron, symboliquement, a accepté une forme de réunion à trois avec le roi Abdallah II de Jordanie. Je dis symboliquement parce que ce sont donc les deux pays, l'Égypte et la Jordanie, auxquels pense Donald Trump pour évacuer les quelques 2 millions de Palestiniens avant de bâtir sa Riviera. Et donc, il s'est prononcé assez fermement contre tout déplacement de population, un cessez-le-feu immédiat. Bon, on va dire que ce sont des positions assez traditionnelles de la France qui, moi, j'ai l'impression qu'ils cherchent à réexister dans une région où elle a eu un certain poids pendant longtemps et où elle l'a quand même beaucoup moins aujourd'hui.
Oui, Emmanuel Macron, fait-on savoir à l'Élysée, a décroché le téléphone alors qu'il est au Caire. Bon, ça aurait pu être Abdel Fattah Sissi. Non, l'Élysée tient à dire que c'est Emmanuel Macron qui a organisé l'appel téléphonique avec Donald Trump.
Oui, bon. Bon, c'est une diplomatie de témoignage, c'est une diplomatie d'intermédiaire. C'est bien de rappeler un certain nombre de fondamentaux. Et parmi ces fondamentaux, il y a effectivement la nécessité de reprendre le cessez-le-feu, mais surtout le refus de toute expulsion forcée de population, mais aussi, et ça c'est, tu l'avais souligné, le fait qu'il est hors de question que le Hamas soit associé à la gouvernance de Gaza. Parce que le vrai enjeu maintenant, c'est le retour de l'autorité palestinienne à Gaza, et de quel cadre on peut construire pour que cette relève politique, qui est un premier pas pour une future solution à deux États, d'ailleurs il devrait y avoir une réunion organisée à New York en juin, par le prince Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, et Emmanuel Macron pour la solution à deux États, parce qu'il n'y a que ça qui permettra de sortir de la guerre. Mais à raison, le président français a souligné que cela veut dire d'abord aussi un renforcement des questions de sécurité pour que cette idée des deux États vivant côte à côte, sans être une menace l'un pour l'autre, puisse devenir réalité. Donc oui, c'est très bien de le rappeler. Il y a juste un dernier point. L'Union européenne est le principal bénéficiaire des exportations israéliennes, le premier partenaire commercial d'Israël, et l'Union européenne est le premier donateur à l'autorité palestinienne. Donc il est aberrant, et c'est pourtant le cas, que l'Union européenne et la France, elle aussi, jusqu'ici, n'aient joué et ne jouent depuis des années qu'un rôle tout à fait marginal dans les crises au Moyen-Orient.
Sauf qu'on a là trois acteurs virtuel aujourd'hui, parce qu'aucun des trois n'a pris sur ce qui se passe à Gaza au moment où nous parlons.
Si, je pense quand même que, y compris la France, mais enfin déjà l'Égypte et la Jordanie ont clairement fait savoir qu'ils étaient totalement contre l'expulsion de population.
Oui, mais l'offensive israélienne, la personne aujourd'hui n'a les moyens d'y mettre un terme, stopper la main d'Israël.
Ça bien sûr, et je pense que Donald Trump et Benjamin Netanyahu vont en discuter en ce moment même à Washington, puisque le Premier ministre israélien est reçu. Mais après, tout ce qui est dit, effectivement, on sent que la France, elle cherche avec cette réunion au mois de juin à relancer la solution politique. Ce qui en soi est tout à fait louable, parce qu'il faut trouver un horizon politique. Mais on voit bien que les obstacles à franchir avant d'y arriver sont quand même extrêmement nombreux. Concernant la gouvernance à Gaza, alors les trois d'ailleurs, Jordaniens, Égyptiens, Français, ont expliqué qu'il fallait une autorité palestinienne renforcée. Donc ça veut dire, en creux, que l'actuelle autorité palestinienne est très faible,
ne fait pas le poids,
et discréditée. Et qui et on sait qu'il y a des négociations, mais les Émirats sont pas forcément d'accord avec l'Égypte et l'Arabie Saoudite pour savoir qui déjà dirigerait cette autorité palestinienne renforcée. Évidemment, Mahmoud Abbas serait d'une manière ou d'une autre mis de côté, mais on parle à nouveau de Mohamed Darlan, mais il ne plaît pas à tout le monde pour différentes raisons. Là, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Mais voilà, déjà, il faudrait donner un peu de corps à cette autorité palestinienne renforcée qui prendrait la suite à Gaza. Et puis, Emmanuel Marc le souligné, Emmanuel Macron a dit plus aucun rôle pour le Hamas. Bon, très bien. Plus facile à dire qu'à faire. Parce que
si on met Mohamed Darlan à la tête de l'autorité palestinienne,
alors si on met Mohamed Darlan, effectivement, ce sera...
Il a un certain nombre de comptes à régler.
Voilà. Oui. Oui, avec quelqu'un comme ça. Mais vous voyez que tout ça... enfin, je veux dire, la solution à deux États, plus ce qui se passe à Gaza. D'ailleurs, Emmanuel Macron a aussi parlé des possibilités d'annexion à Gaza et en Cisjordanie en disant qu'il était totalement contre. Bon, je veux dire, l'état de la carte pour le moment, la solution à deux États, ça reste un objectif louable, mais on en est très, très loin.
Oui, c'est ça. Il y a un problème de concordance des temps, parce que là, on se projette dans l'après, alors que aucun, encore une fois, ces trois pays n'ont pas prise dans ce qui se passe aujourd'hui à Gaza.
N'ont pas prise, reste le fait qu'il n'y a pas d'alternative à cette solution à deux États et que toutes les alternatives sont bien pires.
Faut-il en convaincre Washington et Tel Aviv?
Ben, c'est ça tout le problème.
Oui.
Mais ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Marc Semo, Bruno Darrou, on va plus loin. C'est terminé. L'essentiel continue dans 4 minutes. Restez avec nous.
Bon, youpi.
Parce que l'alternative, c'est...